ta femme s'échine, et tes enfants maigres sont des vieillards à 12 ans. Ton sort est plus dur que celui des nègres sous les fouets abrutissants. Nègre de l'usine, forçat de la mine, ilote du champ, lève-toi peuple puissant. Ouvrier, prends la machine, prends la terre paysan. Ouvrier, prends la machine, prends la terre paysan. Paysan, le sol que ton bras laboure rend son fruit dans la saison. Et c'est l'opulent bourgeois qui savoure le plus clair de ta moisson. Toi du jour de l'an à la Saint-Sylvestre, tu peines pour engraisser la classe qui tient sous son lourd séquestre. Ton cerveau fait pour penser. Nègre de l'usine, forçat de la mine, ilote du champ, lève-toi peuple puissant. Ouvrier, prends la machine, prends la terre paysan. Ouvrier, prends la machine, prends la terre paysan. Qui forge l'outil, qui taille la pierre, qui filetisse le lin, qui pétrit le pain, qui brasse la bière, qui presse l'huile et le vin, et qui donc dispose, abuse et trafique de l'œuvre et du créateur, et qui donc se fait un sort magnifique aux dépens du producteur. Nègre de l'usine, forçat de la mine, pilote du champ.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Salut, bonsoir.
Il est 19h05
et vous écoutez le Canu Info du lundi.
Alors, au programme de cette émission, donc à l'international, on commencera par la répression qui a eu lieu au Honduras. On enchaînera avec un sujet que je ne connais pas. Tu peux le détailler.
Avec l'athlète Caster Semenya à qui on veut imposer un traitement chimique pour faire baisser son taux de testostérone.
On enchaînera avec les exécutions en Arabie Saoudite et les ventes d'armes de la France en Arabie Saoudite utilisées sur les civils yéménites. On passera au national avec un gros point sur la mobilisation du 1er mai à Paris, notamment sur les gros mythos de Castaner et sur les différentes violences policières qu'il y a pu avoir. On parlera un petit peu également de l'acte 25, donc des Gilets jaunes. Et on enchaînera au national avec un anarchiste qui a visiblement été poignardé. Et au local, donc, on parlera de procès des presque 4 évadés du centre de rétention administrative qui a eu lieu récemment, et on finira donc par un petit retour sur le 1er mai à Lyon, et je vois que nous finirons d'ailleurs plutôt par un reportage sur des paroles de Gilets jaunes d'un rond-point du Sud, avant de parler du traditionnel agenda militant.
Voilà, et là on va du coup commencer avec le Honduras.
Oui, donc on s'intéresse tout de suite au Honduras qui connaît d'importantes grèves et manifestations depuis le 26 avril. Donc sont principalement mobilisés les enseignants, les travailleurs de la santé, les lycéens ainsi que les étudiants. Ils s'opposent aux coupes budgétaires, aux licenciements collectifs et à la privatisation de l'enseignement public et du système de santé. Alors pour info, le salaire horaire pour un prof, il se situe entre 2,70 et 3,80 $ de l'heure. Au Honduras, le taux de pauvreté est de 60%. Pour les travailleurs des maquiladoras, donc qui fabriquent principalement des vêtements, le salaire hebdomadaire moyen s'élève à $40. Et pendant ce temps, les exonérations fiscales de ces mêmes entreprises, donc dans les zones franches, s'élèvent à $1,5 milliard pour cette année. Donc ce sont des milliards de dollars qui sont produits par la classe ouvrière qui permettent aux capitalistes de s'engraisser un peu plus. L'inégalité au Honduras est extrêmement forte. Il y a aussi depuis début avril une mobilisation dans les zones plus rurales avec des groupes indigènes qui se sont alliés aux agriculteurs pour des marches mais aussi des barrages routiers. On l'avait vu notamment en début d'année avec les caravanes de migrants que la situation économique du Honduras pousse des milliers de travailleurs pauvres à s'engager sur les routes de l'exil. Le président du Honduras, donc, c'est Juan Orlando Hernández. Il s'inscrit dans la droite lignée de la politique mise en place. Je sais pas. Mise en place par le coup d'État de 2009 qui avait été largement soutenu par les États-Unis. Du coup, là, depuis début avril, mais plus particulièrement depuis le 26, des milliers de personnes partout dans le pays manifestent ou participent à des barrages routiers. Lundi dernier, il y a des manifestants qui ont bloqué la frontière avec le Nicaragua. Ils ont été violemment dispersés par la police hondurienne. Il y a des bâtiments gouvernementaux, dont l'hôtel de ville et une pharmacie de la capitale, qui ont été incendiés lundi. Le siège du parti au pouvoir a également été endommagé. Ça, c'était mercredi, donc le 1er mai. Suite à cette mobilisation, la police anti-émeute a réprimé très durement les manifestants, alors notamment avec des gaz lacrymogènes, des ballons caoutchouc et des matraques. Il y a eu des dizaines de blessés et au moins 10 personnes arrêtées, mais également des vidéos ont permis d'identifier un policier en civil donc, qui était dans la manif et qui tirait sur les manifestants. Et il y a un enseignant de 52 ans qui a échappé de peu à la mort suite à un de ces tirs qu'il a reçu en pleine poitrine. Donc voilà, pour les Honduriens, le quotidien, c'est la misère, l'exploitation, aussi le réchauffement climatique qui touche particulièrement les zones rurales et donc toute l'agriculture, puisqu'il y a des grosses sécheresses. Et du coup, bah, maintenant, à ça s'ajoute la répression du gouvernement qui ne veut pas bouger d'un iota. Et tout ça avec le soutien sans faille, bien sûr, des États-Unis, Trump en tête.
On enchaîne donc avec sujet, vas-y.
Avec Caster Semenya, qui est donc une coureuse sud-africaine qui a porté plainte contre l'Association internationale des fédérations d'athlétisme pour avoir mis en place en 2018 une réglementation sur le taux de testostérone chez les athlètes féminines. Alors de quoi on parle exactement ? Depuis 2018, l'Association internationale impose aux sportifs de haut niveau de réguler leur taux de testostérone sous ce qui serait la barre biologique moyenne. Avant même cette réglementation, plusieurs sportives ont été interdites de compétition. C'est le cas de Caster Semenya, donc, en 2009, après qu'elle ait battu son propre record aux 800 mètres, mais aussi de la sprinteuse indienne Dhuti Chand, en 2014. On leur reproche une hyperandrogénie, c'est-à-dire un excès de testostérone. Alors, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'une femme peut avoir un excès de testostérone? À partir de quelles normes en décider le taux acceptable? Le fait que plusieurs femmes puissent avoir un taux de testostérone élevé signifie tout simplement qu'une femme peut avoir un taux de testostérone élevé. On en arrive à la situation absurde où Caster Semenya doit se battre pour ne pas subir un traitement visant à altérer chimiquement son corps pour pouvoir continuer à concourir. Tout ça pour la punir de ne pas coller à la norme arbitraire de ce que devrait être une femme. Arbitraire puisque le fait même que des femmes puissent avoir des taux de testostérone très variés prouve que cette norme est construite et qu'elle découle surtout d'une volonté d'enfermer les femmes dans des moules. Je vous cite la seule personne au conseil d'administration de l'association internationale qui a voté contre l'imposition d'un contrôle hormonal et qui dit donc: le docteur Berman nous a présenté des études réalisées dans les compétitions internationales de 2011 à 2013. Il nous dit qu'il y a beaucoup de filles qui sortent de la normalité au niveau de la testostérone, mais encore faut-il se mettre d'accord sur la normalité, qui avant était fixée à 10 et maintenant l'est à la moitié. Attendez, j'ai un petit problème avec la fin n'est pas imprimée.
Invente. Hein.
Non, je vais quand même dire bien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, j'ai voulu savoir si parmi les hommes on observait les mêmes différences de taux et on m'a répondu positivement. Et donc là c'est moi qui reprends la parole. Il est donc peut-être largement temps d'arrêter de vouloir définir les hommes et les femmes comme des êtres qui n'ont rien en commun et qui ne répondent à des critères, très définis et très distincts et auxquels il faudrait se conformer artificiellement.
On enchaîne avec le sujet sur l'Arabie Saoudite.
Oui, on voulait reparler un peu de la situation en Arabie Saoudite et des liens que la France entretient avec ce pays. Il y a une dizaine de jours, l'agence de presse officielle saoudienne a annoncé l'exécution de 37 hommes, dont un par crucifixion. Donc, on ne connaît pas le détail des accusations, mais l'ensemble de ces hommes étaient des opposants politiques qualifiés de terroristes par le régime. Alors, vu le sort réservé aux journalistes dans le pays, on s'interroge quand même beaucoup sur cette qualification. On se souvient de l'exécution sommaire de Jamal Khashoggi à Istanbul en octobre. Alors l'Arabie Saoudite, c'est de toute façon un des taux les plus élevés d'application de la peine de mort dans le monde, sans compter justement toutes ces exécutions sommaires comme en Turquie. Donc outre ces mises à mort insupportables, l'Arabie Saoudite s'illustre depuis maintenant bientôt 5 ans dans sa guerre contre le Yémen. Alors je reviens très rapidement sur l'histoire du conflit. En 2011, il y a un mouvement de contestation au Yémen, un peu dans la lignée des printemps tunisiens et égyptiens, qui va déstabiliser durablement le pays. Et en 2014, les rebelles houthis vont prendre Sanaa, donc qui est la capitale du Yémen. Alors, pour rappel, hein, les Houthis, ils sont zaïdistes, c'est une branche du chiisme. Donc, en réponse, l'Arabie Saoudite, qui est sunnite, va prendre la tête d'une coalition donc exclusivement composée de pays sunnites, avec notamment le Koweït, le Qatar et l'Égypte. Et c'est cette coalition qui va semer la misère et la guerre depuis maintenant 5 ans, avec les conséquences qu'on connaît au Yémen, donc plus de 10 000 morts, au moins 60 000 blessés et 14 millions de personnes qui souffrent de famine. Alors, on en avait déjà parlé ici à l'occasion d'un débat en Espagne sur la livraison d'armes à l'Arabie Saoudite, parce qu'il faut savoir qu'un certain nombre de pays européens ont suspendu leur vente d'armes à l'Arabie Saoudite, mais ce n'est pas le cas des deux plus gros fournisseurs, c'est-à-dire les États-Unis et la France. Donc l'Arabie Saoudite, c'est le deuxième pays acheteur d'armes pour la France, juste après l'Inde. C'est un marché qui représente environ 1,2 milliard d'euros par an pour la France. Alors à ce prix-là, hein, la paix peut être une science à géographie variable pour les capitalistes. Le plus important pour le gouvernement et les capitalistes, c'est de conserver leurs intérêts financiers, comme nous l'explique Benjamin Griveaux en avril 2018 sur Public Sénat.
Encore une question d'ordre international. À l'occasion de la visite à Paris du prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, des ONG dénonce aujourd'hui les ventes d'armes à Riyad, possiblement d'ailleurs utilisées au Yémen. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Leur dire d'abord que lorsque nous recevons des dignitaires étrangers, rien n'interdit d'avoir des discussions avec eux sur différents sujets, que ce soit les droits de l'homme ou autre.
Non, en
que c'est là un partenaire commercial important pour la France, qu'il y a une industrie en France importante avec des milliers d'emplois à la clé sur cette industrie particulière qui est l'industrie de l'armement.
Mais cela nous commande quand même de ne pas non plus fermer les yeux. Il y a des accords internationaux, des engagements.
Ferme les yeux à nouveau, mais que sur l'utilisation de la diplomatie économique pour restaurer l'influence de la France dans certaines zones du monde, eh bien c'est un élément important de notre diplomatie et que notre industrie a aussi besoin de pouvoir trouver des débouchés sur ces marchés.
Donc les ventes d'armes, c'est un motif de fierté, d'efficacité, d'influence, et puis c'est un outil économique important.
À nouveau, tout dépend à qui vous vendez les armes, la manière dont elles peuvent être utilisées par la suite, etc. Et donc, en l'occurrence là, il y a un intérêt clair pour l'industrie française de pouvoir procéder à ces échanges de nature commerciale.
Quand on connaît le nombre de morts que ces armes provoquent chaque année partout dans le monde, ce genre de petite saillie bien cynique, ça fait toujours plaisir. Bon, alors après, comme ça craint un peu quand même, ça fait plusieurs mois que le gouvernement, et plus particulièrement Florence Parly, est régulièrement interrogée sur le sujet. Alors la plupart du temps, elle botte en touche ou mitonne carrément. Alors après différentes versions depuis quelques mois, maintenant elle nous explique que les armes utilisées au Yémen sont en fait de vieilles armes françaises. Mais les nouvelles, hein, celles qui sont vendues en ce moment, eh ben, ils ne les utilisent pas. Je la cite. « À ma connaissance, ces armes ne sont pas utilisées de façon offensive dans cette guerre au Yémen et on ne peut donc pas de façon mécanique. En tout cas, moi, je n'ai pas d'éléments de preuve permettant de dire cela, que des armes françaises sont à l'origine de victimes civiles au Yémen. » Donc les mecs, ils achètent des armes pour ne pas les utiliser. C'est pas con du tout.
C'est connu, hein.
Oui, ouais, et ouais. Ça paraît très très cohérent. Elle explique aussi que maintenant, ils vont peut-être réfléchir un petit peu plus avant de les vendre. On l'écoute.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il faut mettre la pression sur l'Arabie Saoudite et les Émiratis en leur disant « ça suffit » ou est-ce que vous considérez qu'il faut garder le silence et continuer à leur livrer des armes ?
Il ne faut nullement garder le silence. Ce n'est pas d'ailleurs ce que fait la France, puisque la France réclame à corps et à cri que des accès humanitaires soient ménagés vis-à-vis de la population yéménite qui souffre.
Donc on réclame des accès humanitaires, mais on continue à livrer des armes.
Si.
Madame Parly, c'est une question importante. On réclame juste un corridor humanitaire et on continue à livrer des armes.
Je pense que j'ai répondu.
Mais non, vous n'avez pas répondu. Vous nous dites, on va demander un corridor humanitaire. Moi, je vous demande, est-ce que vous allez malgré tout continuer à livrer des armes dans le cadre des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite ?
Je vous répète que nous avons des procédures et que par conséquent, naturellement, si de nouveaux contrats devaient être passés avec ces pays, ils passeraient au crible des critères que j'ai rappelés. Voilà.
Mais les contrats passés, on continue à les honorer.
Je ne peux pas être plus précise.
Alors ce qui est marrant là, c'est que ce qu'on vient d'entendre, ça date de février, mais que donc le 15 avril, il y a une enquête qui est sortie et qui démontre qu'une nouvelle commande a été effectuée en décembre par l'Arabie Saoudite, et ça, Florence Parly s'est bien gardée d'en parler. Alors on va revenir un peu sur cette enquête qui est particulièrement édifiante, c'est donc le média indépendant Disclose qui l'a sortie le 15 avril. L'enquête, elle s'appuie notamment sur un rapport de la DRM, la Direction du Renseignement de l'Armée, dont Macron a eu connaissance dès le 3 octobre. On apprend donc dans cette note confidentielle défense que des Mirage 2000 et des Charles Leclerc livrés par la France, alors cette fois-ci aux Émirats Arabes Unis, sont employés au Yémen, que les canons d'artillerie César vendus à l'Arabie Saoudite sont stationnés juste à la frontière yéménite. Bon, après, ils ont une portée de 42 km qui permet tout de même d'atteindre le nord du pays. Pour le reste, la DRM avoue ne pouvoir rien certifier et malgré ses doutes, les ventes continuent bel et bien. Les auteurs de l'enquête y dressent une liste très impressionnante des armes livrées par la France, donc Charles Leclerc, Obus Flèche, Mirage 2000, Radar Cobra, Blindé Aravis, Hélicoptère Cougar et Dauphin, Frégate, et j'en passe. Donc comme je disais plus tôt, un nouveau contrat a été signé en décembre pour des livraisons de véhicules blindés, ceux qui sont stationnés à la frontière yéménite jusqu'à présent. Ces livraisons, le contrat y court jusqu'à 2024. C'est l'entreprise rouennaise Nexter qui a remporté ce juteux contrat, hein, qui va probablement dynamiser l'économie locale. Mais heureusement que Florence Parly nous explique qu'ils n'utiliseront que leurs vieux fusils. On se demande toujours donc à quoi vont servir les 105 canons César qui sortiront des usines rouennaises, ou encore les 700 fusils de précision. Alors peut-être simplement justement à tuer les dizaines de condamnés à mort exécutés chaque année en Arabie Saoudite. Bon, l'avantage, c'est comme de nombreux pays européens cessent les exportations, ça ouvre un marché encore plus grand pour la France. Bon, comme les armes ne serviront qu'à décorer, on est relativement rassuré. On est aussi très rassuré pour la liberté de la presse, puisque 3 journalistes français ayant participé à cette enquête sont convoqués par la Direction générale de la sécurité intérieure le 14 mai, dans le cadre d'une enquête pour atteinte au secret de la défense nationale. Allez, pour se remonter le moral, et parce qu'on est sûr et certain qu'on se fout bien de notre gueule, on écoute Tonton David.
Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr, sûr, qu'on nous prend pour des convés, j'en suis certain. Quelque chose ne tombe pas rond, car je suis sûr, sûr, qu'on nous prend pour des convés, j'en suis certain. Originaire d'une île, classé comme Thomas, assistance en calcul, mon œil de la métropole, par si le club me parle à des maisons.
Continuer dans la lignée de « on nous prend pour des cons », on va parler de notre gouvernement de mythomane. Entre autres choses.
Attends, tu viens de me prendre ma transition, quoi. Non, mais parce que, effectivement, t'as parlé de Florence Parly, qui est une grosse mythomane sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, mais on a quand même un autre gros gradé dans nos ministres, c'est Castaner, qui est quand même un très très gros mytho aussi. Alors on va y revenir. D'abord, donc, on va parler un peu de cette fête du 1er mai, qui n'est pas du tout la fête du travail, hein, mais qui est la fête des travailleurs. Alors même si ce gouvernement et Emmanuel Macron a voulu insister sur la valeur travail, on rappelle que avant le régime de Vichy, avant Pétain, c'était la fête des travailleurs, et qu'à partir de 1941, Pétain donc a décidé de transformer le nom et la signification profonde du 1er mai, donc de la fête des travailleurs, vers la fête du travail, en valorisant le travail et par ailleurs la famille et la patrie, alors qu'à l'époque, hein, à la fin du 19e siècle...
Il n'était pas très gilet jaune.
Il n'était pas très gégé, Pétain, le maréchal, c'est sûr. À cette époque, la fête des travailleurs... Hein, pour rappel, c'est d'abord pour l'amélioration des conditions de travail, ça s'inscrit dans la lutte de classe contre la bourgeoisie, et c'était pour commémorer des grévistes américains à Chicago en 1886 qui ont été tués par les forces de l'ordre, puis en France au début du 20e siècle, en 1906, hein, pour la journée de 8 heures qui ont également été tués par les forces de l'ordre. Donc nous, on appelle ça la fête des travailleurs parce que c'est la fête des travailleurs et pas du travail, parce que le travail, on n'aime pas ça. Alors, c'était une journée convergence le 1er mai un peu inhabituelle par rapport aux années précédentes, puisque c'était du rouge, la CGT beaucoup évidemment, du jaune, pas mal, et aussi CFDT, beaucoup de noir. La CFDT, non, c'est fini, ça c'est terminé. Ils font même plus de manifs ensemble maintenant. Hein. La CFDT et l'UNSA, ils font leur manif de droite eux, tranquille, et puis les autres font leur manif...
Ils n'ont pas fait une manif, ils ont fait une balade à vélo.
Ils ont fait une balade à vélo, voilà. Alors, les chiffres nationaux donc sont quand même toujours très, très différents en fonction de qui les compte les manifestants. Donc la CGT nous dit 310 000 manifestants, ce qui est quand même un beau chiffre, et le ministère de l'Intérieur, bah, c'est quasiment divisé par deux, comme souvent, 164 000 manifestants. À Paris, selon la CGT, il y avait 40 000 manifestants, et selon le ministère de l'Intérieur, 28 000. Il y a toujours un gouffre un peu étrange, qui a été d'ailleurs, on ne peut plus caricatural, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Alors à Paris, il y a eu 330 interpellations, dont 200 préventives, donc c'est avant les manifestations, vous savez, dans les multiples contrôles qui sont maintenant systématiques à Paris, avant les manifestations, vous vous faites interpeller, comme ça on vous empêche de manifester, souvent pour pas grand-chose, mais sauf que vous prenez quand même, généralement, attroupement en vue d'organiser une action violente ou des dégradations, ce qui amène souvent à de la prison avec sursis ou de la prison ferme. Et sur toute la France, on est à 380 interpellations. Alors... revenons sur notre ami Castaner. Pourquoi dit-on que c'est un gros mythomane ? Au-delà de la mythomanie donc systématique des chiffres du ministère de l'Intérieur, là, Castaner a élevé un tout petit peu le niveau. Tout le monde l'a entendu clamer haut et fort que l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris s'était fait attaquer. Oui, oui, attaquer, il a bien dit attaquer, par des méchants gilets jaunes, hein, qui voulaient détruire l'intérieur, bah, l'intérieur de l'hôpital, et notamment de ce service, puisque les gilets jaunes, non seulement adorent attaquer les hôpitaux, c'est bien connu, mais surtout les services de réanimation, comme celui-là, puisque les gens qui sont en train de se réveiller...
Ça fait partie des revendications.
Ben ça fait partie des revendications. À mort, tous les gens en réanimation, c'est bien connu. Et donc, non seulement les gilets jaunes sont des terroristes en puissance, mais ils réfléchissent décidément pas du tout à leurs actes. Sauf que, il y a eu quelques petites contre-informations. En fait, la totalité des vidéos ou des témoignages, que ce soit les vidéos des personnels ou les vidéos des gilets jaunes eux-mêmes, ou les témoignages des personnels qui étaient à l'intérieur donc de services de réanimation ou des gilets jaunes à l'extérieur, eh bien, dénoncent et contredisent complètement les propos de Castaner et expliquent que c'était donc pour se protéger des violences policières. Alors aujourd'hui à Paris, hein, il y avait le collectif des 34 de la Pitié qui a tenu une conférence de presse dans les locaux de l'Union locale de la CGT du 13e arrondissement pour établir leur version des faits, c'est-à-dire la vraie version, contre les gros mythos de Castaner. Alors, d'une part, pourquoi 34 ? 34, c'est le nombre de manifestants qui ont été interpellés dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai. Et ils expliquent qu'au-delà des lacrymos desquels ils voulaient se protéger, c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans l'enceinte de l'hôpital, ils ont voulu se protéger des voltigeurs. Les voltigeurs, donc vous savez, c'est deux flics à moto, hein, ceux qui ont été interdits en 86 après la mort de Malek Oussekine et qui ont été réintroduits depuis quelques années, alors notamment dans le cadre du mouvement contre la loi travail, et généralisés aujourd'hui dans le cadre du mouvement contre les gilets jaunes. Ces voltigeurs, ils sont rentrés dans l'enceinte, ils ont poursuivi ces manifestants qui se protégeaient des lacrymos, et ils les ont tapés à coups de tonfa, et ils ont utilisé à plusieurs reprises le LBD-40, donc vous savez, cette jolie arme qui crève des yeux. Dans leur communiqué, les 34 ont également dénoncé l'ensemble des violences policières contre le mouvement Gilets jaunes, mais aussi, et ça c'est bien de le noter, de le souligner, contre les violences contre les habitants des quartiers populaires. Et des violences ce 1er mai, il y en a eu en pagaille, notamment à Paris. Alors, plusieurs vidéos prises à l'insu de BACEU ou de CRS montrent certaines de ces violences qui ont, pour certaines, débouché sur une enquête de l'IGPN. L'IGPN, c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, donc c'est la police des polices qui fait une enquête sur des violences ou des écarts policiers, bon, qui souvent n'aboutit pas à grand-chose en termes de sanctions pour les policiers mis en cause. Alors, quelques exemples, on en a un, c'est un jet de pavé. Donc on voit un CRS qui ramasse tranquillement un pavé par terre, ce qui était sur un tas de pavés. Donc c'est pas, bon, généralement, il n'y a pas un tas de pavés comme ça qui est à l'issue d'une grosse attaque de, je sais pas, de Black Bloc ou de Gilets jaunes. Il n'y a pas un énorme tas de pavés comme ça qui est disponible. Et là, le CRS prend ce pavé-là qui est tout en haut du tas et il le jette très fort sur les manifestants qui sont beaucoup moins protégés que les CRS. Et il est couvert par sa hiérarchie, puisque sa hiérarchie dit que c'était de la légitime défense, comme souvent, mais c'est bien sûr... Alors là, il y a une enquête de l'IGPN. Ensuite, on a une grande tarte dans la gueule sur un manifestant qui faisait rien, mais qui visiblement était en train de parler à des CRS. Et un des CRS énervé lui a mis une grande tarte. Donc il était à visage découvert. Hein. Il ne faisait absolument rien de répréhensible, mais par contre, il s'est quand même pris une tarte. On a également un voltigeur qui s'est attaqué à un malvoyant parce que, figurez-vous, ce malvoyant très fourbe, hein, il avait une canne blanche et des lunettes de soleil. Donc il lui a filé plusieurs coups de tonfa parce qu'il s'est dit que c'était illégal quand même d'avoir une canne, ça, parce qu'avec une canne blanche, c'est vrai, quand on est malvoyant, on peut taper sur les flics. C'est connu. Alors, pour finir, et celle-là, c'est la moins drôle de toute l'histoire, même si les autres n'étaient pas drôles non plus, hein, on voit un BACEU qui enfausse son tonfa dans le pantalon d'un manifestant au sol qui est en train de se faire interpeller et qui est déjà entouré par 5 flics et le pantalon est déjà un peu baissé et on voit le flic sur la vidéo baisser le pantalon et enfoncer le tonfa dans le pantalon et probablement dans l'anus. Donc il y a une enquête de l'IGPN également pour ce nouveau fait-là. Je terminerai sur ces violences policières.
Ça nous rappelle quand même juste, je précise, l'histoire de Théo qui avait eu un déchirement de l'anus suite à cette pratique qui en réalité est relativement courante dans la police et visiblement ils sont formés à cette technique de manière quasiment officielle.
Sauf que là, une nouvelle fois, ça a été filmé, donc on espère que ce flic sera sanctionné, mais on ne croit pas trop à une grosse sanction puisque les enquêtes de l'IGPN débouchent quand même rarement sur des lourdes sanctions. Pour finir, je citerai sur les violences policières. Hein, pour finir, je citerai un gilet jaune qui a failli perdre son œil par un tir de LBD 40. Hein, il a l'œil salement amoché. Il va avoir de la perte de vue, mais il va le garder. Tant mieux pour lui. Voilà ce qu'il dit. Pour tout ce qu'on a aujourd'hui, il a fallu se battre. Rien n'a été gagné comme ça. Donc aujourd'hui, on se bat, on lutte et on lâchera pas. Continuez votre répression. On sera toujours dans la rue. Donc, on est bien content que la répression et le fait qu'il ait été blessé, gilet jaune, eh bien. Ça l'arrête pas et il continue à lutter. Alors petite anecdote quand même, pour revenir sur la pitié salpêtrière, ce vendredi 3 mai, Castaner est venu rendre visite à la pitié salpêtrière suite à l'affaire, en soutien au personnel qui était terriblement affecté. En fait, c'est pas du tout le cas, tous les personnels le disent, hein, mais il est quand même venu à la pitié salpêtrière. Sauf que ce jour, vendredi 3 mai, dans une grande majorité des urgences parisiennes, il y avait une grève contre la détérioration des conditions de travail, les suppressions de services, etc. Les personnels grévistes avaient mis une banderole à l'extérieur pour rendre visible leur grève. Cette dernière a été arrachée par les CRS et les grévistes ont été écartés des caméras pour que la visite de Castaner passe crème, hein, fasse bien, voilà. Donc, on dit quoi à Castaner ? On dit merci, vraiment merci Castaner pour l'ensemble de ton œuvre.
Et un basse gouvernement de mythos.
Voilà. Alors, puisqu'on parle des hôpitaux, on va faire le lien avec ce qui s'est passé à l'acte 25 des Gilets jaunes, hein, puisque les hôpitaux sont très mobilisés ces derniers temps, donc je l'ai dit, hein, pour des fermetures de services, des conditions de travail de plus en plus difficiles, exécrables, des surcharges, des externalisations de services, des privatisations de services et d'hôpitaux. Eh bien, la manif de samedi des Gilets jaunes à Paris, elle a fait une bonne tournée des hôpitaux parisiens contre la casse de l'hôpital public, en solidarité avec les personnes en grève et ou en souffrance, que ce soit les personnels ou les patients. Et puisque on parle de l'acte 25, rapidement, hein, et pour terminer, les chiffres étaient évidemment plus faibles que d'habitude, puisque les gens se sont beaucoup mobilisés pour le 1er mai, que ça fait 25 samedis d'affilée et que les gens ils ont bien le droit de se prendre un petit week-end. Mais on notera quand même le chiffre donc, de 42 858 manifestants selon Nombreux Jaunes, donc, qui recense les manifestants au nom des Gilets jaunes, pour 18 000 selon le ministère de l'Intérieur, donc on a quand même toujours un très très gros écart. Et on espère et on a hâte que l'acte 26 eh bien, reparte de plus belle, puisqu'il y a différents appels nationaux. C'est à Nantes pour l'Ouest et c'est à Lyon pour l'Est.
On va parler maintenant un petit peu de ce qu'il s'est passé à la librairie Anarchiste Publico à Paris.
Oui, très rapidement, et surtout pour souhaiter un bon rétablissement à un camarade de la Fédération Anarchiste qui donc a été agressé au couteau jeudi 2 mai donc à la librairie Publico, donc librairie de la FA. Il a été blessé à la tête. Bon, il s'en sort. Et voilà, ses jours sont pas en danger, mais voilà, on voulait juste lui souhaiter un prompt rétablissement et dire à ses agresseurs qu'on n'oublie pas, on pardonne pas.
Voilà. On rentre maintenant à Lyon pour vous reparler des centres de rétention administrative et notamment du procès qui a eu lieu vendredi dernier des 4 personnes qui avaient tenté de s'évader du CRA de Saint-Exupéry le 13 avril et qui passaient devant le TGI de Lyon. Une première audience avait eu lieu le 18 avril. Quand je disais le 13 avril, c'était sûrement... si, c'est ça. Le 18 avril, puis reportée, car l'une des personnes avait refusé d'avoir un avocat et avait demandé du temps pour préparer sa défense. Et les 4 personnes que la juge tenait à juger ensemble avait été envoyé à la prison de Villefranche-sur-Saône jusqu'à vendredi dernier. Vendredi, la salle était pleine et nous étions nombreux à ne pas avoir pu rentrer. En effet, les comparutions immédiates de la manif du 1er mai avaient lieu dans la même salle et les soutiens pour eux, et comme pour les 4 du CRA, s'étaient déplacés en nombre. Les 4 personnes ont écopé finalement de 4 mois de prison ferme, ce qui est exactement ce que le procureur avait demandé, mais ont pu être relaxées pour les dégradations, puisqu'aucune caméra de surveillance n'a pu filmer les personnes qui avaient effectué le trou dans le mur, et on ne sait donc pas qui l'a vraiment fait. Le fait que cela n'apparaisse sur aucune caméra est quand même un exploit, puisqu'on apprend pendant le procès que le CRA est équipé de 90 caméras de surveillance. Et l'avocate des 3 personnes qui ont accepté d'en avoir une précise d'ailleurs qu'il y a en ce moment 91 personnes enfermées au CRA, ce qui nous fait une caméra par personne.
C'est bien pour un truc qui n'est pas censé être une prison.
Exactement. L'avocate a d'ailleurs axé la défense sur les conditions de vie du CRA et surtout sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une évasion, puisqu'il ne s'agit normalement pas d'une prison, puisque les personnes qui y sont enfermées n'ont pas commis de délit. L'objet des poursuites a donc été requalifié en tentative de soustraction à une mesure de rétention. Et elle a rappelé plusieurs fois que malgré tout, les personnes à l'intérieur sont traitées et considérées comme des prisonniers. Pendant le procès, la personne qui avait refusé d'être représentée par un avocat s'en est justifiée en disant qu'il avait perdu confiance dans les avocats et en racontant notamment que l'avocate qu'il représentait pendant sa garde à vue avait cherché à le dissuader d'être un peu tatillon sur les termes utilisés sur le compte-rendu de son interrogatoire avant de le signer. Il a déclaré avoir demandé 3 fois à avoir accès à son dossier et qu'il ne l'a jamais eu, cet accès, et il considère n'avoir pas pu bien préparer sa défense, ce que la juge a choisi d'ignorer. Il s'est donc quand même défendu lui-même, et je vais vous lire quelques extraits de sa défense. Je le cite donc. « Par rapport à l'évasion, n'importe qui a un chien chez lui, qui l'enferme pendant 48 heures, il va tenter de s'évader. L'être vivant, c'est comme ça. Moi, je suis un être vivant. J'ai été en prison. De prison, on m'a envoyé au centre de rétention. C'est la première fois de ma vie que je suis enfermée. Donc moi, je pense et je crois qu'il n'y a rien qui va changer. Je crois profondément que c'est dans mes droits d'essayer de s'évader. Parce que je ne me sentais pas libre. N'importe qui va chercher sa liberté. Moi, j'ai voulu chercher ma liberté. C'est dans les droits de chercher ma liberté. Mais moi, de mon point de vue, personnellement, je n'ai pas fait un délit. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui j'en suis en prison. J'ai cherché que ma liberté. » La juge l'interrompt et, en lui disant « Eh bien, précisément, monsieur, c'est un délit. » La personne poursuit « Un chien, on le met chez vous pendant 48 heures, il va tout faire. Même il va se suicider, il ne va pas rester enfermé. Moi, je suis pareil, je suis un être vivant, voilà. Il y a des gens qui peuvent être incarcérés, moi, je ne peux pas être incarcéré. » Ce à quoi la juge répond « Monsieur, je vous explique une chose, si vous ne comprenez pas la différence entre un chien et un être humain, le chien ne connaît pas la loi et vous, vous la connaissez. » Un peu plus tard, lors du procès, ouais. Ouais. Un peu plus tard lors du procès...
J'ai un peu envie de l'outrager là, la magistrate.
Ouais. La personne continue sa défense en disant « La tentative d'évasion, c'est vrai, la loi française, elle interdit ça. Mais moi, comme être humain aujourd'hui, même si on me met en prison, je trouve n'importe quel moyen de m'évader. Je vais chercher ma liberté, je suis un être humain, je suis un être vivant. Moi, j'ai frappé personne, j'ai fait de mal à personne, j'ai touché personne. J'ai juste cherché ma liberté. » Il y a 100 ans de là, il y avait l'histoire de l'être humain. Il n'y a que 100 ans qu'il y a des frontières. Il y a 100 ans, juste 100 ans qu'il y a des frontières. Peut-être que ça changera un jour. Je vais être jugé par ces lois-là. Moi, pour moi, c'est un procès politique déguisé dans une enveloppe de jugement d'affaires de je sais pas quoi. Pour moi, c'est injuste. Si je suis aujourd'hui en prison, parce que j'ai juste tenté de m'évader. Pourquoi j'ai tenté de m'évader? On m'a donné au centre de rétention de l'ibuprofène, moi j'ai la maladie de Crohn. On m'a donné de l'ibuprofène, mais j'ai pas pu vous donner l'ordonnance médicale qu'on m'a prescrit. C'est dangereux pour ma santé. Une fois j'ai consulté un docteur, il m'a donné des antibiotiques pour ça. Au centre de rétention, je me sentais pas un être humain. Je me sentais... Tout à l'heure j'ai dit un chien. Un chien c'est un être vivant. Pour moi il y a du respect. Pour moi n'importe quel être vivant il doit avoir le respect. Aujourd'hui moi je me trouve en prison, je trouve ça injuste. Ça, c'est mon point de vue personnel, bien sûr. Je trouve ça injuste, que honteux aussi, que je me trouve en prison à cause de ça. Aujourd'hui, ce que je suis en train de subir, c'est mon point de vue personnel, madame, je suis en train de subir aujourd'hui la torture, que j'ai rien fait du tout. Aujourd'hui, moi, si on m'a pris mes papiers, si on m'avait pas pris mes papiers, je m'évaderais pas. Je serais pas entrée en prison. Je serais pas là devant vous. Moi, mes papiers, ils me les ont pris injustement. J'ai un recours. Je considère pas que je suis un sans-papier, non. Ma présence au centre de rétention, je la trouve aussi injuste. Donc injuste pour ce qu'on me reproche. Un délit que moi, je trouve pas un délit. N'importe quel être humain, n'importe quel être vivant va chercher, va faire pareil, voire même mieux, il va peut-être réussir. Moi, j'ai pas réussi, malheureusement. Ne le niez pas, madame. N'importe quel moment que j'aurai un petit coin que je pourrais m'évader, je le ferai. C'est pas contre la loi. C'est juste pour récupérer ma liberté. C'est tout, madame. Et il finit le procès en disant « C'est pas un procès de droit, c'est un procès politique ». En tout, ça aura duré 1h15, ce procès. Et pour information, un compte-rendu un peu plus complet sera publié sur Rebellion, sûrement dans peu de temps, dans la semaine. Je vous tenais aussi à vous rappeler que lundi 15 avril, une personne avait tenté de se suicider dans le centre de rétention. Et suite à cet acte et à la répression qui s'était abattue une fois de plus sur les personnes emprisonnées dans le CRA, un retenu avait lancé un appel que vous pouvez lire sur Rebellion. Et depuis cet appel, un rassemblement a eu lieu devant le CRA et le 1er mai, les locaux de la PAF ont été recouverts de peinture. Toute initiative contre les CRA et contre toute la machine à enfermer et expulser est encore et sont toujours les bienvenus.
Ouais, bah alors c'est une plaidoirie à faire lire aux avocats qui souvent se contentent du service minimum quant à la défense du droit des étrangers, ouais. Parce que je trouve que son témoignage, il est probablement bien plus significatif que les plaidoiries des avocats. On rappelle quand même que les centres de rétention sont effectivement pas des prisons et que les personnes qui y sont enfermées dans des conditions déplorables et visiblement de plus en plus déplorables pour ce qui est du CRA de Saint-Exupéry n'ont commis absolument aucun délit.
Et surtout, ceux qui ont connu et la prison et le CRA disent souvent que c'est mieux en prison.
Voilà.
On va repasser au 1er mai à Lyon.
Ouais, carrément. Ah, ouais, j'y étais plus, moi j'étais en train de.
J'étais au CRA.
J'étais en train de faire des plans pour cramer le CRA, je crois. Non. Du coup, le 1er mai à Lyon, et ben il s'est pas trop mal déroulé. On était au moins 10 000, certains diraient 12 000. Il y avait un gros cortège de têtes noires et jaunes avec des banderoles à la tête du cortège qui nous disaient « Attention, ça va être tout noir » ou « Nos rêves sont marqués par vos lacrymos » ou « Vénère comme un gilet jaune ». Voilà, donc c'était un cortège déterminé dès le début. Alors, non sans difficulté, puisque la CGT, notamment le service d'ordre de la CGT, j'entends, n'a pas accepté que ce soit les Gilets jaunes qui prennent la tête du cortège. Bon, on comprend toujours pas pourquoi, ils veulent toujours être en tête.
On rappelle que traditionnellement, dans les défilés syndicaux, c'est les secteurs, les boîtes qui sont en lutte qui se mettent en tête des manifestations.
Du coup, c'est pas spécialement la CGT en ce moment.
Oui, puis du coup, voilà, ça paraissait relativement cohérent que ça soit les Gilets jaunes qui, au 1er mai, prennent la tête de la manifestation, comme c'est la tradition, je le rappelle.
Comme c'est la tradition. Alors, à plusieurs reprises, les forces de l'ordre refusaient que la manif parte ou continue, puisque le cortège était en tête. La CGT et le service d'ordre ont certes tenté à plusieurs reprises de reprendre la tête, mais bon, ils ont finalement pas réussi. Bon, et tant mieux. En tout cas, ce cortège, à un moment, s'est arrêté devant un certain Hôtel Dieu. Alors, vous devez le situer, hein, c'est pas très loin de Bellecour. Avant, c'était un hôpital populaire, et maintenant, c'est un centre commercial réservé à la bourgeoisie lyonnaise et qui est donc absolument détestable à voir, et donc c'est probablement pour ça que certains et certaines ont décidé d'envoyer dessus des œufs de peinture pour le colorer, lui donner un peu plus de couleur. Et puis devant, bah, y avait quelques flics qui ont pris un peu aussi, à déplorer à ce moment-là une interpellation dans les rangs du cortège. Toujours est-il qu'une fois arrivé à Bellecour, donc traditionnellement à Lyon, eh bien, il y a un cortège libertaire qui part en manif et qui va jusqu'à Place Satonnet, donc à côté de la radio, à côté de chez
vous. Pour la traditionnelle fête de Radio Canut qui a lieu tous les 1er mai depuis...
Et là,
Depuis au moins l'époque de Tonton David.
On ne sait pas pourquoi, depuis au moins l'époque de Tonton David, pour la première année, les flics ont empêché ce cortège d'aller donc à Place Satonnet, juste à côté donc de la radio. Ça a duré un petit temps. Bon, on était dans l'incompréhension totale, puisque bon, finalement, peinturerait l'Hôtel Dieu, c'était légitime. Enfin bon, bref, on n'a pas compris. Et donc, du coup, c'est le mode gilet jaune qui a repris du service, puisque là, plusieurs milliers de personnes sont parties en manif sauvage sur les quais du docteur Gailleton. Et alors très vite, là, la répression a été forte et efficace. Il y a eu beaucoup de lacrymos, beaucoup de tirs de la LBD 40, et même, alors là, ça venait pas des flics, un petit cocktail Molotov sorti d'on ne sait où. Et donc le cortège a été assez vite scindé en deux. Une partie a été repoussée vers Gerland, l'autre est restée sur les quais, et ça s'est assez vite terminé. Mais en tout cas, on notera donc cette manif sauvage, cette tentative après le 1er mai de plusieurs milliers de manifestants, ce qui prouve que les gilets jaunes sont graves encore dans la place à Lyon.
Voilà.
En parlant de gilets jaunes.
Pour finir, oui, c'est ça. On vous propose d'écouter des paroles de gilets jaunes dans rond-point du Gard qui est toujours occupé à l'heure actuelle et qui est occupé depuis le début du mouvement. Et donc, on vous propose de les écouter parler de leur point de vue sur le mouvement en cours, sur eux-mêmes, sur les médias, sur les syndicats.
Oui. Et du coup, comme c'est possible qu'on n'ait pas le temps de revenir à l'antenne, peut-être juste rappeler que ce samedi, il va falloir venir très très nombreux parce que c'est un acte national qui se déroulera à Lyon.
L'acte 26.
Voilà. Voilà. Et du coup, on reviendra peut-être vous faire un agenda si le copain de l'émission d'après nous laisse 2-3 minutes. Et puis sinon, à la semaine prochaine.
Le début du rond-point, ben, on était au moins de 300, même sûrement plus, le 17. On se retrouvait le soir, au moment où tout le monde partait, on se retrouvait quand même à 80.
Et nous, au départ, au Moulin, il pleuvait le 17, quand, 17 novembre. On partait sur l'Est, parce que jamais de la mer, on a vu comment il se passe quelque chose. Voilà. On est arrivé là, et c'est là qu'on a vu du monde, on s'est arrêté, et depuis, on est resté.
Ouais. C'était bien sympa, on a subi le froid, on a subi la neige, on a subi la pluie. On a monté des barnums, on a monté des bâches, on a fait un peu comme on pouvait pour se protéger. Et on est le 22, le 23 mars et on est toujours là. On nous a virés une fois, deux fois, trois fois. Mais on est toujours là.
On nous a viré hier. Tous ceux qui pouvaient, dans l'urgence, arriver, on est venus. Bon, ça a été pour nous faire lâcher quelques larmes et tout, parce que, quelque part, c'est nous, c'est notre intégrité, c'est... Ils mettent en doute notre honnêteté. C'est une humiliation. Et donc, le temps qu'on soit à la mairie, il y a une partie qui était arrivée, sans qu'on se concerte, parce que voilà, le rond-point était de nouveau jaune, décoré. Et pour nous, c'était symbolique, c'était très important. On est toujours là. On ne se considère pas comme des truands, on ne se considère pas comme des casseurs. Simplement, on veut vivre et on veut vivre normalement.
On veut vivre dignement.
Voilà. Et voilà.
Oui, on n'est pas obligé d'aller.
Donc nous sommes toujours là, d'où le fait qu'aujourd'hui nous n'allons pas aux manifestations.
Non, d'accord.
Pour bien montrer que notre rond-point est important.
Au départ, on bloquait. On a bloqué les camions. Après, on a fait du filtrage aussi.
Non, on mettait la merde au début. Pas la merde.
On a distribué des tracts. Oui, et le dernier tract qui a été distribué ici, c'était dimanche. Et le gars qui a distribué le tract s'est pris une amende de 90 euros.
Quel motif ? Distribution illégale de tracts.
Procès verbal qui a été payé collectivement.
Ici, on est une majorité de retraités. Mais quand on va dans les manifestations... la violence a tendance à nous gagner, du moins en nous. On a envie de devenir violent. Quand on voit la répression, quand on voit ce qui se passe, quand on voit surtout comment on est traité, sans aucun respect. Moi, honnêtement, j'ai plus envie de respecter qui que ce soit, à part mes égaux, quoi. Mais j'ai plus envie de respecter le gouvernement. J'ai plus envie de respecter la police qui
nous respecte
qui
pas.
Nous respecte pas.
Ouais. Tu regardes le jour où il y a eu la manif à Alès, où avec Marie-Jo, on s'est fait braquer par deux mecs de la BAC. carrément braqué, ils nous regardaient alors qu'on faisait la circulation parce qu'ils n'étaient même pas capables de bloquer les voitures. Les voitures rentraient dans la manifestation. Donc nous, on avait décidé de faire la circulation. Et il y en avait deux de la BAC qui nous ont carrément visés. Et ils sont restés comme ça, je veux dire. Bon, on les a regardés, en même temps, on n'avait pas peur. Hein. Mais voilà, pas peur, pas peur. Hein.
Non, même pas peur. Même pas. Ils ont des ordres, mais ils ont un cerveau.
Voilà. Non, mais c'est ça, des moutons. Mais ils n'ont pas de conscience.
Non, mais voilà. Ils disent bien qu'ils sont avec nous quand même. Il n'y a pas de souci parce qu'ils disent que nous, dans notre famille, on a déjà
comme nous. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent aussi.
Oui, mais s'ils ont honte de nous taper dessus, nous t'en dessus quand même.
Et finalement, jusqu'à présent, ils ne l'ont pas trop montré.
Mais il faut avoir le courage de ce que l'on dit. Parce qu'ils disent qu'ils sont avec nous. On voit des pays qui sont des dictatures comme l'Algérie. Elle est reconnue comme telle. En Algérie, que ce soit les gendarmes ou les soldats, aujourd'hui on va voir ce qu'ils vont faire, ils ont déposé leurs armes quand même pour être à côté du peuple. Il n'y a pas plus de casse. C'est bien gentil de se réfugier derrière les ordres. C'est des lâches, c'est tout.
Ouais.
C'est des lâches.
Et ne pas oublier surtout que sur notre rond-point, on a eu 5 arrestations les manifestations. Et
une perquisition. Ils m'ont pris mon casque de médic parce que, évidemment, ce qu'on respire, sinon c'est intenable. Et je me suis fait confisquer mon casque de médic, le masque. Bon, comme je faisais une nuit, j'avais un bâton dans ma tente qui me servait quand même à me défendre au cas où, on ne sait jamais. Ça a aussi confisqué. Bon, le copain, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont carrément raflé tout ce qu'il avait dans la voiture. Et même les boules de pétanque à son grand-père, quoi. Là, on est clairement dans une guerre psychologique, puisqu'ils voient que malgré tout ce qu'ils peuvent nous envoyer, on continue à être là.
Ils nous ont envoyé les voitures,
c'est des menaces aussi, il y a des menaces.
Quelque chose qui te passe dans les tripes, que tu n'analyses pas forcément, mais il y a... Oui, il y a une vraie fraternité qui s'est organisée. Et puis un partage, un échange, il y a des discours. Tout le monde était lobotomisé par sa télé.
Ouais.
Mais là,
maintenant,
on discute avec les gens, on échange nos points de vue. Il y a de l'entraide si quelqu'un a besoin de quelque chose. Et ça, c'est énorme.
C'est énorme. C'est par rapport à ce qui existait, c'est énorme.
C'est une société qui est en train de changer. C'est ce qui fait peur au gouvernement.
Ouais. Absolument.
On se voit tous les jours sur le rond-point.
Oui.
Mais on se voit tous les jours et plus sur Facebook, sur des petits groupes.
Il y a eu la marche pour les femmes.
On a fait le 8, on a fait la marche pour le droit des femmes. Ouais. On est parti d'ici, on a été jusqu'à la sous-préfecture à Alès.
À pied.
Et 16 km. Et quand on est arrivé à la sous-préfecture, tout d'un coup, ils ont fermé les portes. Il y avait des gens qui étaient comme vous, qui n'ont pas pu rentrer. Et on était 12 femmes et les retraités.
Le mouvement repose essentiellement sur les femmes ici.
Ouais.
Ah bon,
c'est elles qui font, qui drainent tout, qui ont repoint les ressources. Et on a l'impression que sans elles, il y a un moment que ça serait plus.
Sans les femmes, mais qu'est-ce qui se pourrait ?
On serait bien dans la merde.
Après, chose qu'on essaye de faire aussi. Régulièrement, c'est cyclique. Il y a des gens qui s'arrêtent. Bon, soit pour nous insulter, bon, on leur rend l'appareil, hein, voilà. Soit pour nous dire, mais qu'est-ce que vous foutez là encore ? Donc ça fait partie aussi de ce que nous, on doit faire, expliquer aux gens pourquoi on est là, pourquoi on se bat. Bien leur expliquer que c'est aussi pour eux, on n'est pas une bande d'égoïstes qui a envie de se faire une bouffe tous les samedis, quoi.
Non, puis en général, c'est quand même vachement bien compris. Je prends souvent le temps de discuter et les gens comprennent en disant, mais on vous soutient. Seulement, j'ai un boulot, on n'ose pas forcément venir parce qu'on ne connaît personne.
C'est vrai que le rond-point a une importance énorme parce que le gouvernement Macron devenait de plus en plus policier. On voit bien qu'il contrôle tous les médias. Il est important qu'on reste là et que les gens qui s'arrêtent soient informés et discutent avec nous pour faire passer les idées qu'on a, parce qu'elles passent pas beaucoup à la télévision, hélas. Et donc nos idées, on les partage avec les gens qui voient qu'on est des gens responsables et dignes. Et c'est important, il faut tenir le rond-point. Voilà.
Il faut être visible.
Ils existent parce qu'ils sont visibles. C'est ça qui m'a.
Il y a aussi qu'on est en contact avec d'autres ronds-points.
Oui.
Essentiellement beaucoup d'Occitanie, mais on est toujours en relation. Et donc, quand il y a des manifestations ou une réunion pour telle ou telle chose, on est toujours informé. Quasiment à chaque fois, il y en a au moins un de chez nous qui va, qui tient informé, qui passe. Donc le message passe entre les villes de la région. Et on a des nouvelles de. Bon, on a des nouvelles de toute la France, mais plus par les réseaux sociaux, pas par les connaissances. Mais on se tient toujours informé, on est toujours en liaison avec les autres, surtout au niveau régional.
Mais moi, ça me dit que de l'Ardèche, de Rion, pour les Européens, ils se sont arrêtés avec nous.
Oui. Ils ont sorti leur casse-croûte, ils ont
mangé. Ils viennent du puits aussi.
On a un monsieur qui vient de Lozère. Il est très très âgé, donc il vient une fois par semaine, parce que bon, pour lui c'est compliqué. Un
monsieur qui vient du Vigan aussi, pareil.
Oui. Il y a un monsieur qui vient de Saint-Honoré,
ils sont pas loin.
75 km.
Ouais, quand il vient, il reste 2 ou 3 jours. Il a partagé des moments avec nous. Et c'est lui qui s'est pris le PV, le
pauvre. Et voilà.
Moi, personnellement, ça m'a sorti de ma solitude, le rond-point.
Et mais on ira manifester au Martinet. Mais on met, moi, j'y vais, mais je mettrai le gilet jaune.
Les syndicats veulent bien de nous, nous on veut bien d'eux, mais ouais. Ils nous accompagnent que... Voilà. Parti, à un moment donné, il décroche et c'est embêtant de faire confiance à des gens qui ne sont pas capables de nous soutenir, quoi, jusqu'au bout. On voit bien qu'ils, ou soit ils n'ont pas les moyens, c'est vrai. Oui, les syndicats ont tellement baissé dans
moi,
l'esprit des gens.
Moi, je veux bien prendre un drapeau rouge, s'ils nous suivent.
Voilà, il faut tout à fait. D'ailleurs, ça a été des discussions entre nous.
Moi, j'estime qu'on n'en a pas besoin.
Moi, j'estime qu'on en a besoin parce qu'il y a des structures qui peuvent nous soutenir. C'est tout.
Je vais prendre l'exemple du 20 décembre où les camionneurs devaient se mettre en grève. Et la veille, tous les syndicats se sont retrouvés chez Macron et ils ont eu ce qu'ils voulaient par rapport à leurs heures supplémentaires qui allaient être diminuées de je ne sais plus combien de pourcents. Et on n'a jamais vu les camionneurs
qui c'est la majorité en grève. Qui est majorité dans les camionneurs?
Ils n'ont pas pensé à nous.
C'est pas la CGT. Hein.
Ah oui.
Mais
oui.
Peut-être, mais ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé à nous, ils n'en avaient rien à faire. Quoi. Moi, je ne suis pas pour le syndicat. Quoi. Je suis désolé, mais...
Moi aussi.
Si, moi, je suis pour qu'il y ait du monde.
Mais qu'il y ait du monde, voilà.
Qu'ils viennent.
On ne peut pas, on peut pas écarter les syndicats quand ils ont des revendications qui sont proches des nôtres.
Et oui, c'est les mêmes.
S'ils ont des revendications très proches de nous, bon, c'est normal qu'on les soutienne comme ils nous soutiennent.
Mais, oui.
Mais on voit bien qu'ils nous lâchent. À un moment donné, ils nous lâchent parce qu'ils n'ont pas des ordres.
La première fois, quand les chauffeurs routiers ont décidé de faire la grève générale. Les syndicats sont allés au gouvernement. On ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, ils ont dû avoir une belle somme d'argent, de belles promesses. Immédiatement, les routiers ont arrêté. Les routiers, sans leur syndicat, ils perdent leur salaire. On les comprend. Et ils nous le disent, on les a bloqués mardi dernier. Ils nous le disent, nous, sans les syndicats, on ne peut pas, on est coincés. Ils sont comme nous, ils ont des familles, ils ont besoin de manger, ça se comprend. Donc les syndicats les ont lâchés, ils sont repartis. Deux fois, les syndicats ont appelé à la grève générale, c'était la deuxième fois là. La grève générale, ça veut dire une petite manif dans des petites villes comme Alès, on n'était pas nombreux. Et après, on rentre à la maison.
Voilà.
Pourquoi dire grève générale? Okay. Nous, on est partant pour faire une grève générale, on est partant pour bloquer l'économie. Non pas pour foutre la merde, mais pour qu'enfin on nous entende. Enfin, on nous entend. Et là, les syndicats font marche arrière à chaque fois.
C'est mardi, quand on a été au centre commercial qu'on devait bloquer, on a failli se faire... On était 8, on a failli se faire ramasser par la police parce que, justement, on était là pour bloquer. Et les syndicats sont partis.
Défilés, quoi.
Et même au niveau du parti, la région, c'est communiste de partout, là. On n'en a pas vu, hein, là.
Ah ouais.
Et même, il y a même un communiste qui est venu détruire la cabane. Là, il a des yeux. Oh. Ah, mais je vais l'attraper.
J'ai jamais milité avant les Gilets jaunes. Si, la seule fois où j'ai milité en Belgique, c'était une marche blanche pour Julie et Mélissa, dans l'affaire du trou.
Ah oui.
Là, ouais, je me sentais concerné, quoi, donc j'y étais. Mais sinon, non, j'ai jamais milité comme j'y milite maintenant, quoi. J'étais chez moi, ils commençaient à bloquer la station à essence, je buvais mon verre tranquille. Ça me faisait rire, et puis on m'a dit, il faut venir, et puis j'ai dit, bah, pourquoi pas, que je suis venu sur le rond-point, et puis depuis, j'y suis, quoi.
S'en prendre à ce truc collectif des Gilets jaunes, c'est ignoble, je trouve que c'est ignoble, et c'est indigne d'un gouvernement démocratique, parce qu'on fait rien de mal, on fait que se défendre, et ils nous traitent comme des vandales, voilà. Deux fois où j'ai eu des problèmes de violence à Alès, c'était les CRS qui ont déclenché, hein, qui ont balancé des grenades sans aucune raison. Sans aucune raison. Et ça, c'est ce qui fait que notre point de vue sur la police, moi, n'a jamais été très bon, mais là, vraiment, ils m'ont complètement écœuré. Hein, voilà.
Je suis habitué des mouvements sociaux, et donc cette violence, j'ai toujours vu. Mais ce qui se passe, bon, j'ai vu beaucoup de gens qui ont applaudi lorsque la ZAD de Notre-Dame-les-Landes s'est fait déloger et qui se sont mis à pleurer quand ils se sont fait castagner dans les manifs. Quelque part, je me dis, c'est bien fait pour ces gens-là. Mais maintenant, c'est au grand jour. Donc les gens sont réalistes que la police n'est pas, malheureusement, pas là pour le peuple, mais pour protéger le pouvoir en place.
On a quand même l'ONU qui commence à... Enfin, ça fait quand même quelques semaines, qui alerte tout le monde. On a tous les pays d'Europe qui s'indignent de ce qui se passe.
Je pense que ça se parle. J'ai pris un coup de flashball alors que je suis totalement pacifiste. Hein. En plus, je l'ai pris de dos. Donc, ça prouve bien que j'étais pas en train de faire quoi que ce soit. Je suis médic. Ils peuvent rechercher où ils veulent. J'ai jamais fait preuve de la moindre violence dans les manifs. Et pourtant, j'ai pris un coup de flashball. Ça m'a fait un bleu de la taille de pamplemousse.
Et on voit le regard des gendarmes rien que sur le rond-point. Au début, ils s'arrêtaient, ils venaient boire le café, ils venaient discuter avec nous. Ça se passait très bien. Maintenant, ils ne s'arrêtent plus pour boire le café. C'est fini.
Ben oui, parce que
celui qui est venu, il y en a un des trois qui sont venus déloger là hier, qui s'était arrêté un jour là et qui avait bu le café avec nous. On avait discuté, quoi. J'ai dit, mais vous vous étiez arrêté, vous n'avez pas honte de venir nous déloger là. Vous vous étiez arrêté, vous avez bu le café, on avait discuté ensemble. Mais non, ce sont des chiens. Tenir au rond-point, tenir au rond-point et encore tenir au rond-point.
Parfait. Dès qu'il y a une manifestation, quand il y a une réunion, on a toujours quelqu'un qui va et qui transmet aux autres. Voilà tout ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Mais on ne voit que ce que les violences. Alors samedi dernier, il y avait une fête, c'était une fête à Dion.
Oui, il y avait 3000 personnes pour voir le film de François Ruffin.
C'est passé nulle part.
Ça passe nulle part, hein, alors que c'était une fête. Hein. C'était une fête.
On était 3626 personnes.
Ah. Exactement, oui.
On veut du soleil, le titre du film. Et c'était une fête parce qu'il y avait de la musique, des gens qui riaient, qui étaient contents d'être
là. Qui défendaient aussi leur combat. La solution qui nous reste pour nous faire entendre et pour obtenir un minimum de choses par rapport à nos revendications, ce serait de bloquer complètement la France. C'est une vraie grève générale. À partir du moment où je m'acharne toujours là-dessus, mais bloquer Rungis et affamer Paris, là on nous entendrait. Mais le blocage de Rungis, comme c'était en 68.
Ah oui.
Bloquer les raffineries, ça dure pas longtemps, quoi. Ils nous envoient leurs milices de CRS qui nous délogent.
Il y a 30 ans, les gens avaient plus de hargne et tenaient.
En 68, les gens, ils avaient rien. Là, il n'y a pas de. Il y a les crédits à payer, des maisons, il y a des voitures, il y a tout ça.
Oui, mais en 68, l'économie était florissante. Il y avait du travail.